Atikamekw, berbères ou pygmées, ces peuples, oubliés de la francophonie, parlent pourtant notre langue et partagent une partie de notre histoire. Cet été, ils ont la parole sur France Inter. Aujourd'hui, direction le Cameroun et le Tchad.
La fierté d'un peuple, c'est le bétail. Par le passé, il suffit d'avoir une vache et du lait et c'est tout. Ils vivent très bien. Mais comme ils ont perdu leur bétail, ils sont aussi inquiets de ça.
Sixième épisode, des peuples en sursis.
Et ça veut dire qu'on va la droit vers l'extinction des connaissances traditionnelles parce que plus le Baka va en forêt, plus il reste stable dans sa culture et même sa langue. Je dirais la mort vraiment douce d'un peuple.
Voyage en terre indigène.
Soyez la bienvenue.
Ça va ?
Bonjour.
Les peuples francophones.
J'ai fait des études.
Une histoire oubliée.
Qu'est-ce qui se passe ?
Une série d'Anne Pastor.
Depuis des millénaires, ces peuples vivent en harmonie avec la nature, mais ils sont les premières victimes du réchauffement climatique et de la protection de l'environnement. Au Cameroun, la forêt primaire dans laquelle vivaient les pygmées Baka ressemble de plus en plus à un gruyère entre la déforestation et l'exploitation minière. Ironie de l'histoire, alors que des parcs nationaux ont été créés, les Baka, eux, ont été priés de quitter les lieux, déracinés au nom de la préservation de l'environnement. Au Tchad, dans la bande du Sahel, les peuls sont impuissants devant les conséquences du dérèglement climatique. La sécheresse a contraint ces nomades à se sédentariser et ils tentent malgré tout de s'adapter grâce à leur savoir traditionnel, mais leur mode de vie est en péril. Autrefois gardiens d'une nature sauvage et intacte, ce sont deux peuples en sursis.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter.
C'est la seule chose qui n'a pas changé depuis les ancêtres. Le bruit des animaux est resté le même et c'est ce qui les impressionne beaucoup. Celui-ci est en train de creuser avec son pied l'autre aussi dont ils veulent se battre.
Au Tchad, chez les peuls.
Il est en train d'attacher le veau pour pouvoir extraire du lait. Ah, biru, biru. Pour un peu, le fait de juste rencontrer les animaux comme ça, même au cours de la route, c'est un plaisir immense. Combien de fois le propriétaire, quand il voit ces animaux, se considère presque un membre de la famille.
Juste votre petit nom.
Fariko Ousmane.
Éleveur de la communauté.
De la communauté Peul dans le village de Wourobirigi Aladji Sahali. Au Tchad, dans la région de Chari-Bagrimi.
Des peuls, on a l'image de ces pasteurs et de ces troupeaux qui sillonnent les steppes et les brousses du Sénégal au Soudan à la recherche d'eau et de pâturage. Ils seraient 30 millions dans la bande du Sahel et 250 000 au Tchad. Mais depuis 40 ans, avec la chute vertigineuse de la pluviométrie, moins 20%, leur situation devient de plus en plus difficile. Les troupeaux et les hommes souffrent.
Par le passé, ils partent dans les mares, les animaux boivent à leur guise. Ces derniers temps, ce qu'ils ont constaté, les herbes ont disparu et l'eau également. Et voilà pourquoi maintenant ils ont installé un groupe électrogène qu'on écoute le bruit là, c'est pour pomper l'eau aux animaux. Maintenant, ils attendent trop longtemps pour mettre bas et ils donnent aussi moins de lait qu'avant. Par le passé, même en saison sèche, les vaches ne sont pas maigres. Elles peuvent aussi résister à certains arbres qu'elles mangent. Ça leur permet de résister, ne pas boire l'eau pendant très longtemps. Mais de nos jours, même en saison sèche, les vaches perdent carrément leur viande, elles deviennent très maigres. Et des fois, ça arrive lors de la chaleur, les vaches tombent n'importe où, il faut les aider à s'élever.
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ?
Comme un kulatakam chiedu.
Ce qui les inquiète, c'est la saison sèche.
S'ils
peuvent avoir des tourteaux c'est-à-dire pour le donner au bétail. Ça pourrait aider le bétail à surmonter ce manque de pâturage. La transhumance n'est pas terminée, sauf que certains d'entre eux ils sont partis déjà parce qu'il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez d'herbes. Les gens bougent à la recherche de pâturage toujours.
Est-ce que vous avez peur aussi que votre communauté finalement perde un peu sa culture, ses valeurs?
Les valeurs culturelles d'un peuple, ils ont constaté que ça commence à avoir des problèmes parce que certains de leurs enfants commencent à perdre cette valeur-là et ils sont aussi inquiets de ça. Et c'est l'heure de la prière. On va aller prier.
D'abord, la moitié du pays est désertique. Donc ça, c'est déjà 50% des terres parties comme ça. Les 50% qui restent, une bonne partie, est dans le domaine sahélien. Et avec l'ensablement, il n'y a que environ 20% des terres arables qui sont vraiment cultivables.
Laoté Baoutou, géographe à l'université de N'Djamena.
Le climat a commencé à se détériorer depuis les années 70. La température peut même frôler 50 degrés. Avec le réchauffement climatique, il y a une très grande variabilité. Tantôt, c'est la sécheresse, tantôt, c'est les inondations. Les deux ont des conséquences très, très négatives sur les activités rurales, l'agriculture et l'élevage. Et la situation est vraiment critique.
Et en particulier pour les peuples nomades, peuls.
Il y a des nomades qui se sont totalement sédentarisés. Et même ceux qui continuent par faire la transhumance, ils ont changé même leur mode de transhumance. C'est-à-dire qu'ils descendent très tôt et ils repartent très tard. Et c'est ça qui a beaucoup plus entraîné le conflit entre les cultivateurs et les éleveurs.
Conflit entre les cultivateurs et les éleveurs, puis effectivement les nomades se sédentarisent, forcément cultivent la terre et on leur dit que ce n'est pas leur terre.
Il n'y a pas vraiment un code rural qui reconnaît vraiment la propriété aux éleveurs. Alors qu'ils se disent aussi tchadiens et qu'ils ont droit à habiter là où ils veulent, tel que l'a bien souligné la constitution tchadienne.
Vous êtes en terre indigène, sur France Inter. Au Tchad, chez les Peuls.
Il s'appelle Farik Ousmane. Il est agriculteur et éleveur en même temps. La fierté d'un peul, c'est le bétail. Par le passé, il suffit d'avoir une vache et du lait et c'est tout. Il vit très bien. Mais comme ils ont perdu leur bétail, ils sont devenus aussi des agriculteurs. Mais malgré ça, c'est devenu beaucoup compliqué. La terre qu'ils ont labourée plusieurs fois, cette terre ne donne pas la récolte escomptée. Les mules qu'il a labourées, au lieu de réserver ça pour ses enfants, il est obligé également de donner aux animaux.
Et donc, vous vous êtes maintenant sédentarisé dans ce village ou vous continuez quand même à partir de temps en temps?
Pendant la saison sèche, il migre avec les animaux à la recherche de pâturage. Au lieu de se déplacer trop près, maintenant il se déplace très loin. Des fois, il passe à côté d'un village ou d'un champ, ça suscite un problème. Des fois, les sédentaires disent que c'est leur terrain, pourquoi vous restez ici, et ça crée des conflits.
Vous, qu'est-ce que vous demandez en tant qu'éleveur?
On les aide à avoir des mares artificielles, ouais, des couloirs de transhumance, et aussi à avoir des puits pour puiser l'eau. Ils veulent crier également leur ras-le-bol et montrer leur rage, mais ils ne savent à qui crier et devant qui crier pour avoir un secours.
Les nomades peuls sont les laissés pour compte des politiques de développement et éprouvent parfois le sentiment d'être abandonnés par les pouvoirs publics.
Je m'appelle Singamba Ndjakonda. Je suis agrométéorologiste de formation et prévisionniste météo.
Mais le centre météorologique de N'Djamena est devenu un partenaire de ces oubliés du climat et les ingénieurs leur envoient des messages d'alerte météo par SMS.
Le moment indiqué, on les envoie des messages les messages qui sont définis sous forme de code et à eux maintenant de partager dans leur langue autochtone avec les autres producteurs.
Alors voilà, là on est en train d'ouvrir votre ordinateur où vous avez déjà 200 contacts. Vous avez un dossier où sont référencés tous les codes. Puisque certains ne savent pas lire ni écrire, il faut donc prévoir un langage commun.
Les décades, c'est-à-dire une période de 10 jours dans, dans le mois. Donc si c'est la première décade du mois d'avril, on écrit 0417 DEC 1. Et là, ils comprennent. Oui, ça c'est les quantités de précipitations.
Voilà, alors pluie PL, trace de pluie TR, cumul du mois d'avril, par exemple, on dira cum 04-36-7, ça veut dire le cumul du mois d'avril, 36,7 mm.
Voilà, donc cum saison par exemple, nombre de jours dans la saison, et ça c'est la phénologie des cultures. Si c'est pénicillaire, on écrit pain, ils comprennent. Pénicillaire, c'est une céréale. Donc, à telle date, il faut semer telle culture, pénicillaire par exemple, ou bien sorgho, ou bien maïs.
Sigumba Nginjunda, ingénieur au centre météo.
Oui, nous avons certainement travaillé plusieurs fois avec les peuls, puis nous sommes allés découvrir leur savoir et nous avons vu que les observations que eux-mêmes effectuent coïncident exactement avec nos observations scientifiques. Par exemple, la direction du vent, ils disent que si tel vent vient de telle direction, alors il y aura formation de nuages et ils les observent et nous leur disons que c'est bien vrai. Ce sont ces vents-là qui apportent de l'eau. Désormais, il faut affiner nos relations pour aboutir finalement à un représentant de la météorologie nationale qui sera le correspondant du peuple autochtone peul qui serait en déplacement. Quand ils veulent se déplacer, il y a des signes, il y a les mouvements de certains animaux, les crapauds et autres. Et là, les insectes, ils savent que bon, là, ils peuvent déjà quitter les lieux pour aller quelque part. Ils veulent donc des informations. Est-ce que dans tel lieu, est-ce qu'il y a des pâturages? Est-ce qu'il y a des points d'eau? Donc, le correspondant se chargera de leur communiquer ces informations afin de faciliter leur déplacement.
C'est des millions qui sont en train de jeter par la fenêtre parce que ça n'arrive même pas à atteindre le vrai éleveur. Le vrai éleveur n'a pas besoin de toutes ces informations.
Ça fait 2000 ans que vous vous adaptez finalement.
Oui, ça fait 2000 ans. On continue à s'adapter.
Amat Moussa Hassan est le coordinateur de la plateforme d'éleveurs d'Afrique centrale. Créée en 2014, suite à la guerre civile dans la République Centrafrique et aux exactions de Boko Haram dans la région, cette plateforme interpelle les politiques et soutient les éleveurs, car ils savent que les savoirs traditionnels sont souvent plus conformes à la réalité que des études scientifiques.
Par exemple, aujourd'hui, le déplacement des éleveurs d'un coin à un autre, les gens savent par rapport au début de la saison de pluie, parce qu'il y a des signes qui leur montrent et à partir de là, ils adaptent une stratégie. Est-ce qu'ils vont se déplacer, dans quelle direction et en quel moment? Tout ça pour voir est-ce qu'ils peuvent avoir des herbes, ils peuvent avoir de quoi manger, ainsi de suite. En 2018, par rapport aux signes, on a parlé des oiseaux, on a parlé des étoiles, on a parlé de la direction de vent, on a parlé beaucoup de choses. Ça veut dire que 2018, on risque de ne pas avoir une saison de pluie normale.
Et pourquoi elles sont secrètes, ces connaissances?
Pour le peuple, c'est naturel. Il a les connaissances. Mais il ne peut pas te donner toutes les connaissances.
Bon, par rapport au secret environnemental, moi je suis originaire du Sud. Bon, je voudrais d'abord me présenter, je suis Abakar Babani. Alors, à ce qui concerne le secret, parfois, le bœuf même transmet des messages. Et quand la saison de pluie s'approche, il élève la tête, il voit à l'est, hein, il fait sortir ces narines-là. Et tout de suite, l'éleveur sait que la saison de pluie ne tarde pas à venir. Mais si cette période arrive, et que ce tour n'a pas toujours levé la tête, on commence à avoir d'inquiétude. On dit, mais la saison de pluie va retarder cette année. Il faut peut-être se déplacer. Et donc, ça doit d'abord te mettre, prendre toutes les dispositions pour te permettre soit de rester, soit de partir. Et les animaux, ils se communiquent. Et leurs communications sont perçues par les éleveurs. Et tout de suite, le message est décodé par l'éleveur.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
In tammi be ngare. Allah waddibe.
Petite prière pour commencer.
Depuis des millénaires, les peuls ont suivi ces signes pour les guider et leur permettre de s'adapter. Aujourd'hui, avec la sédentarisation et la société moderne, ce savoir traditionnel est lui aussi menacé. C'est pourquoi l'Association des femmes autochtones du Tchad organise le premier atelier d'adaptation au réchauffement climatique à 300 km au sud de N'Djamena.
De quoi ils discutent? C'est les différentes saisons qui constituent l'année. C'est-à-dire il y a trois grandes saisons. La saison des pluies, la saison où il fait froid, par exemple maintenant, et la saison sèche.
Voilà, maintenant, le monsieur est en train d'énoncer les étoiles.
L'association des femmes peuls, le peuple autochtone du Tchad, fait des actions concrètes sur le terrain pour aider les populations à mieux s'adapter en utilisant les connaissances et savoirs traditionnels.
Hindou Oumarou Ibrahim, présidente de l'association des femmes autochtones du Tchad.
Sur les arbres, par exemple. À la fin de la saison de pluie, il y a certains arbres qui sont des deumiers. On coupe les fruits, on casse l'intérieur. Si le liquide à l'intérieur est abondant, on sait que l'arbre fait des prévisions, que cette année, on aura une carence d'eau. Si le liquide n'est pas abondant, donc l'année sera bonne parce qu'il y aura de pluie. On essaie aussi d'observer sur les oiseaux. Il y a certains oiseaux qui font l'air nu sur des branches à côté de l'eau. Une saison où ils construisent l'air nu sur des branches un peu plus hautes, on sait exactement qu'il y aura beaucoup de pluie et il y aura l'inondation. Parce que l'oiseau ne va pas mettre son nid pour qu'il soit noyé. Et l'année où il construit sur une branche qui est juste à côté de l'eau, on sait que cette année, il n'y aura pas d'inondation. Et on essaie aussi de regarder sur les positions des étoiles, sur les déplacements des nuages. On a 2, 3, 4 indicateurs naturels qui nous permet de voir si l'année sera bonne et cela nous permettra de se déplacer d'un endroit à un autre.
Le nombre des étoiles qu'il a cité, c'est 28. Chaque étoile dure 13 jours, dont l'une des étoiles qui dure 14. Et quand on fait un petit calcul, ça fait 365 jours qui constituent l'année.
À partir de là, elle pourra leur donner des indications sur les mois à semence.
Il y a une étoile qui s'appelle Soraya. Quand cette étoile a fait 9 jours, d'habitude il pleut. S'il n'a pas plu à 9 jours de ce mois, c'est que la saison sera mauvaise. Cette étoile-là, avant le 9 de cette étoile, quand il pleut, les gens cherchent cette eau-là pour pouvoir donner à leur bétail. C'est comme une vaccination.
Ces connaissances sont très orales et on n'a pas une écriture pour le mettre sur place. Et nous, on a trouvé une formule pour leur dire, ce sont nos connaissances, on doit les écrire parce qu'il y a un changement et nos connaissances aussi, ils s'adaptent à ces changements. Et ça nous permet de le transmettre d'une génération à une autre. Mais tout cela est au niveau national. Or, les grandes décisions, elles se prennent au niveau international. Tous les États étaient très contents en 2015, pendant la COP21, pour la première fois, on a eu un accord qui nous engage tous. Les pays ont ratifié. Un exemple du Tchad. La première des choses de faire, c'est d'adopter les lois nationaux à ce contexte international qui est contraignant. Je vais donner juste l'exemple sur les peuples autochtones. On a l'article 7 qui dit « Les connaissances et savoirs des peuples autochtones sont reconnus pour l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. » Alors, s'il y a une loi au Tchad qui dit « Bon, désormais, on va prendre une loi pour reconnaître les droits des peuples autochtones. » On est maintenant 2 ans, rien ne s'est fait. Au Tchad, pour les communautés peuls, c'est tellement marginalisé qu'on nous dit « Dieu a créé un être humain, il a créé les mouches avant de créer le peul ». Et là, l'expression exacte en arabe, on le dit « falata waradouban ». Je crois que c'est une richesse que les gens ne se rendent pas compte.
Voyage en terre indigène sur France Inter. Une série d'Anne Pastor.
Et on arrive maintenant chez le chef de la communauté marabout, celui qui a la connaissance et qui nous invite à rentrer dans sa maison.
Au Tchad, chez les Peuls.
Bonjour.
Ça va?
Oui, ça va, merci.
Là, c'est sa chambre et dès qu'on entre, on voit les signes des connaissances traditionnelles à partir de tous ces calebasses qui sont derrière. Mais ça, c'est les livres de connaissances. Il n'y a que lui qui s'y connaît dans ça.
Chez nous, tous ces savoirs se transmettent depuis des générations. Les grands-pères les ont appris à nos pères et nos pères, à leur tour, les ont transmis. Par exemple, à chaque saison, on change notre nourriture. Telle saison, on va prendre un petit déjeuner avec du miel pour tout le monde. La saison d'après, avec du lait, puis de la courge, et enfin des haricots. On change tous les 3 mois. C'est une sorte de vaccination, comme un remède contre les épidémies ou les maladies.
Avec tout ce qui se passe ces derniers temps, ces turbulences météorologiques, cette raréfaction de l'eau, vous avez peur pour votre communauté ?
Dieu seul sait. Mais oui, j'ai peur. Chaque année, c'est plus dur et on essaye de tout faire pour préserver nos enfants et notre communauté. Mais oui, on a peur de disparaître. On a cette peur en nous. Merci à toi d'être venu nous voir. Ça nous donne de l'espoir. C'est une reconnaissance de notre combat quotidien pour notre survie.
Merci beaucoup. Voilà, effectivement, il y a ces élèves qui l'attendent. Des cours qui sont secrets, auxquels on ne pourra pas assister. Voilà, très belle image de ces 4 enfants... autour de ce feu qui crépite et qui chante les versets du Coran et qui attendent le maître. Si les Peuls, grâce à leur savoir, parviennent encore à surmonter le défi climatique, ils doivent aussi faire face à d'autres menaces, notamment les bandits de grand chemin qui sèment la terreur ou les groupes islamistes qui sillonnent la bande du Sahel. Ce qui fait dire à certains que le pire est à venir. À 1200 km de là, au Cameroun, c'est au nom de la conservation de l'environnement que les pygmées Baka sont aujourd'hui menacés. Une réserve a été créée et des éco-gardes veillent à la préservation des animaux et de la faune dans ce qui était autrefois la forêt des pygmées.
Alors la chanson dit... Oh, mon cœur est vraiment en détresse à cause de ma forêt. Je n'ai plus mes droits et mon cœur est vraiment tourmenté, mon cœur est en détresse.
À la claire fontaine, m'en allant promener. Ah.
J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée.
Oh, oh. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai. Aïe, oh, aïe.
Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai.
les feuilles de chêne, je me suis fait sécher.
Sur la plus haute branche, le rossignol chantait.
Oh, oh, il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai.
Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai.
Ah oui alors.
On a des hommes dotés, les KH et les Kalash, Kalashnikov. On reste en surveillance continue du territoire. On est là pour la conservation de la réserve, des espèces, de la biodiversité en général.
Vous êtes en terre indigène, sur France Inter.
En fait, moi, je suis éco-garde à la réserve de Fondongwela.
Au Cameroun, chez les pygmées Baka.
Les Baka, ils ont du mal à comprendre parce qu'ils étaient tranquilles. Ils avaient la forêt, eux, ils chassaient comme ils voulaient, tout ça. Bon, avec la création des aires protégées, tout ça, ils ont vraiment du mal à comprendre cela.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas leur laisser plus de forêt pour qu'ils puissent continuer à chasser, à cueillir, plutôt que de réglementer?
Laisser plus de forêt, ça veut dire qu'on peut évoluer sans aires protégées pour conserver aussi la nature, nos forêts et la biodiversité. On sensibilise, on leur fait comprendre pourquoi on protège les animaux. On leur fait comprendre l'importance de la conservation. Bon, parmi eux, il y a toujours ceux qui sont un peu têtus.
Donc si vous trouvez un baka en train de chasser, vous l'arrêtez?
Oui, on va l'arrêter, on le ramène. On dit la prochaine fois qu'on te couvre dedans, tant pis pour toi.
Les pygmées baka ont été exclus de leur forêt au sud-est du Cameroun, à la frontière du Congo-Brazzaville. Alors qu'ils devaient déjà faire face à la déforestation et au plus grand projet au monde d'exploitation minière, la création de l'aire protégée en 2006 leur interdit l'accès au territoire. Sinon, ils risquent d'avoir affaire aux éco-gardes de l'ONG WWF qui, au Cameroun, travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement.
Et les Bado Paul.
Je m'appelle Paul Bado. Nous étions déjà au lit. En pleine nuit, on a entendu des gens cogner à notre porte. Les éco-gardes ont défoncé ma porte. Ils ont empoigné mon épouse et l'ont traînée hors de la maison. Elle s'est mise à la bastonner. Mon épouse était déjà à même le sol et l'éco-garde avait une machette flambant neuve et il bastonnait mon épouse avec cette machette. Et je l'ai vu coucher inconsciente. Alors j'ai engagé aussi la bagarre avec les cougards qui voulaient m'empoigner. Lorsqu'ils ont constaté que j'étais déjà à bout de force, ils ont utilisé une fronde avec laquelle ils nous ont ligotés. Et nous avons été amenés à Ntam et nous avons été enfermés là-bas.
Alors votre femme, elle est extrêmement silencieuse, les mains jointes, et elle écoute le récit que vous faites. J'imagine que pour vous, ça a été extrêmement traumatisant.
C'était vraiment très émouvant, parce que même le jeune enfant que vous voyez, il était vraiment entre mes bras. Et il ne faisait que passer sous mes jambes en pleurant. Et au moment où je m'écroulais, ils se sont enfuis en forêt, en pleurant, en pleine nuit, parce que la scène était tellement terrifiante. La suite, c'est que le matin, nous avons été amenés devant l'officier des éco-gardes pour justifier de ce qui nous était reproché. Ils nous ont accusé que nous étions en possession de l'éléphant alors qu'ils n'avaient vraiment pas véritablement vu. Nous n'avions pas de viande d'éléphant ni les trophées d'éléphant dans notre maison. Les éco-gardes nous reprochent d'être des chasseurs. Ils ne veulent pas que nous continuions à faire la chasse. Et moi, personnellement, je n'apprécie même plus rencontrer un éco-garde sur mon chemin parce que les éco-gardes m'ont laissé presque à demi-mort.
Vous avez peur?
Constamment, ça passe dans l'esprit et ils ont toujours ce film dans leur tête.
Et alors, après, à partir de votre témoignage, ça a été relayé à un niveau international et Survival International a déposé plainte contre le VWF et les éco-gardes. Et la plainte a été acceptée et reçue par l'OCDE et c'est en cours.
Moi, c'est à Pepena et que Pepena, on a Mekina.
Mais après que le problème ait été relayé, jusqu'à ce moment, il n'y a plus eu de comportement du genre de la part des éco-gardes.
Des éco-gardes qui ont violenté des bacas. Je ne suis pas au courant de cette histoire.
Ounana, éco-garde au parc de Ngoïla.
Les bacas sont des gens, ils obéissent à tout. Oui, ils obéissent aux braconniers, ils obéissent à nous. Quand on arrive, si on demande les braconniers sont où, ils vont nous dire. On a formé certains bacas. On les a appris les techniques de dénonciation. Bon, maintenant, on a un problème ici, c'est que les gens pensent que le braconnier, c'est celui qui entre en forêt pour abattre l'éléphant. Mais il y a une chaîne, celui qui est dans les grandes métropoles, qui est même à Yaoundé, à Douala. Et il y a aussi peut-être un Chinois qui est à Dubaï, qui attend l'ivoire que le baka va chasser ici en forêt. Maintenant, on cherche d'abord à arrêter celui qu'on a trouvé en forêt. Après, celui-là nous passe l'information et puis on mène les enquêtes jusqu'à arriver en haut de la chaîne. Ça arrive, mais rarement, on s'arrête toujours au niveau peut-être de celui qui est ici à Yaoundé ou à Douala. Parfois, ce sont des grosses pointures, des gens intouchables. Peut-être que vous pouvez avoir quelqu'un qui travaille dans l'armée, un colonel, un capitaine ou quelqu'un comme ça. La loi chez nous est un peu...
Mais c'est venant de l'association Okani.
Je crois que c'est juste une réplique de ce que l'on vit dans la société camerounaise où les non-baka pensent qu'ils sont des groupes supérieurs. Et que de l'autre côté, les Baka sont des sous-hommes, des ignorants, des peuples retardés. Et je crois que c'est de là que part le problème. Et il faut juste continuer à renforcer la question de relation entre la conservation et les droits humains.
Grâce au soutien des ONG, les pygmées Baka, qui avaient été oubliés par le ministère de la Forêt au moment de la création de l'aire protégée, ont obtenu quelques compensations en 2016. Des maisons en dur dans le village d'Assoumindélé où vivent quelques 300 baka, une école, un forage et une forêt tampon de quelques milliers d'hectares leur a été attribuée entre le village et la réserve.
Nous sommes en train de parcourir la petite parcelle qui a été naturellement réservée pour les communautés et on est en train de se rendre compte que cette parcelle est complètement dégradé parce que à force de faire de l'agriculture sur le même espace, et ça veut dire qu'on va la droit vers l'extension des connaissances traditionnelles, vers l'extension de la transmission de ces savoirs traditionnels, parce que plus le baka va en forêt, plus il reste stable dans sa culture, plus il maintient sa culture et même sa langue. Par exemple, tu es grand comme un arbre. Et s'il n'y a plus de grands arbres, qu'est-ce que le Baka dira après? Par exemple, il est sage comme la tortue. Alors, si toutes ces images disparaissent, je crois qu'on arrivera à une exception. Et c'est pour cela qu'au sein de l'association Okani, nous pensons qu'il est temps de faire un peu plus vite, de collecter le maximum d'informations, d'histoires, de contes, de faire des enregistrements possibles, de musique et d'autres contes qu'on peut garder et sauvegarder pour les futures générations.
Louisette est une des gardiennes des traditions Baka. C'est elle qui va chercher les plantes dans ce qui reste de forêt.
Effectivement, nous parcourons des distances pour retrouver ces essences et notamment cet arbre appelé Baka Guga. Quand on a de la fièvre, ce qui est communément appelé le palu, on fait bouillir et on consomme cette eau parce qu'elle est essentiellement amère, elle n'est pas très loin de la quinine. Il devient de plus en plus rare pour nous de retrouver les essences qui nous servent de pharmacopée traditionnelle parce que il faut marcher vraiment assez longtemps. Ici, c'est une forêt complètement dégradée. Vous avez sûrement remarqué le petit cours d'eau qu'on a traversé. Il est à sec, même quand les pluies sont en train de revenir. Faire la pêche en pleine forêt, comme c'était le cas avant, nous n'avons plus la possibilité de nous y rendre.
Alors aujourd'hui, vous vivez de quoi?
Avec les restrictions et le morcellement de la forêt, nous sommes obligés de nous nourrir comme tout le reste de la population sédentarisée depuis longtemps en achetant du riz. Et c'est assez compliqué pour nous parce que nous vivons à la manière des sédentarisés. Diviser ainsi la forêt ou mettre une limite alors que nous, c'était notre seul endroit où on pouvait aller prélever nos ressources en termes de pharmacopée traditionnelle et même en termes d'aliments pour nous nourrir. Qu'est-ce que nous allons devenir? Parce qu'ici, il n'y a plus grand-chose. Nous n'avons pas encore pris l'initiative de traverser pour entrer dans la réserve de peur de se confronter à l'administration. Comment est-ce que nous allons vivre sans la forêt? Or, la forêt était exploitée de manière communautaire. On ne connaissait pas la notion de limite. C'est celui qui était le plus fort, qui pouvait aller le plus loin. Mais au jour d'aujourd'hui, avec des limites, on ne comprend plus que nous devons marcher en forêt en respectant des bornes et des peintures.
Et des pancartes qui indiquent réserve de Ngoyla.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter.
Je tiens vraiment à cette citation d'un vieux Baka qui m'avait dit: mon fils, j'ai comme l'impression que l'administration nous a extraits des forêts pour nous installer le long des routes pour que, en fin de compte, eux y retournent dans nos places pour exploiter les ressources, puisque les autochtones n'ont pas des outils tels que des tronçonneuses pour détruire la forêt. Alors les autres, ils sont venus, ils ont fait des investigations, ils ont trouvé du bois, ils ont trouvé des animaux, ils ont trouvé des ressources, des papillons et tout ce qui est vraiment oiseau, et ils ont pensé vers des réserves. Mais ils ont oublié qu'il y a des gens qui ont conservé ces ressources depuis des millénaires.
Au Cameroun, chez les pygmées Baka.
Ils étaient à repérer ici une feuille.
Donc c'est une feuille très utilisée par les femmes Baka aussi pour la construction des huttes. Et lorsqu'elle est à cette taille, on peut l'utiliser comme gobelet.
Finalement, on voit bien qu'on se sert absolument de toute la nature.
De toute la nature, oui.
Même au niveau spirituel, parce qu'on peut dire que cette forêt, elle est un lieu de production, elle est un lieu de récréation, mais elle est aussi un lieu de spiritualité.
Nous avons perdu toutes les pratiques traditionnelles parce qu'en principe, Edjengi, le rituel, l'esprit de la forêt, c'était en forêt. Au jour d'aujourd'hui, Nous voulons bien conserver ce rituel qui amenait un peu plus de solidarité et de fusion dans la communauté, mais nous sommes obligés de le faire au village. C'est ce qui n'a naturellement pas de sens parce que l'esprit de la forêt, c'était pour protéger les Baka en forêt. Mais au jour d'aujourd'hui, même pour nourrir Edjengi, ils mangent la nourriture du riz et des sardines que nous mangeons au village. Alors qu'avant, dans le bon vieux temps, Edjengi devait manger de la viande que les nouveaux initiés ont tuée en forêt. Il était donné aux chasseurs d'aller abattre un sanglier, des antilopes et même l'éléphant. Mais au jour d'aujourd'hui, avec ces restrictions, les rites traditionnels vont disparaître. Je dirais la mort vraiment douce d'un peuple pour absolument arriver à l'assimilation du peuple Baka.
Ce soir, c'est au village, autour du feu, que Louisette et les femmes ont convié les enfants à participer à une soirée traditionnelle. Elles ont revêtu autour de la taille une couronne de paille et leur voix angélique flatte les esprits de la forêt comme autrefois. Elle perpétue encore et toujours cette transmission des savoirs.
C'est le premier conte de la soirée. Et Dieu dit à son enfant, pour m'adoucir le cœur, joue de la musique pour moi. Et appelle-moi les animaux. Alors, les animaux sont apparus et les Baka ont commencé à nommer les animaux. Voici le sanglier, voici la biche, les zèbres.
Et regardez les enfants, on voit bien que c'est à travers les contes qu'il y a toute cette culture qui se transmet, totalement fascinée, avec en arrière-plan cette chorale de femmes.
En chantant, on participe et on encourage le conteur à donner un peu plus d'ardeur et à son conte. C'est vraiment à travers le conte de Tibola. Et Tibola a pu donc perpétrer cette tradition de transmission des noms des animaux aux enfants Baka jusqu'à nos jours. Et ça s'appelle le yéyi, ce rythme. Pendant que le chasseur s'apprêtait à entrer en forêt, les femmes chantaient le yéyi dans la nuit pour rapprocher les animaux du campement. Et le lendemain, lorsque le chasseur sortait du campement, il n'avait pas à parcourir des kilomètres de distance et il rencontrait l'animal préparé et attiré par l'esprit du yéyi que les femmes pratiquent dans la forêt.
Vous êtes en terre indigène, sur France Inter.
C'est vraiment entre elles que la danse du yéyi se passe et aucun homme n'a le droit d'entrer dans le cercle des femmes.
Au Cameroun, chez les pygmées Baka.
Voilà, et en cette fin de soirée, les jeunes nous ont rejoints, ont quitté la musique moderne et ce sont eux qui sont au tam-tam. La première chose qu'ils font quand ils arrivent, c'est de s'installer pour jouer de la musique et c'est de rallumer le feu.
C'est très symbolique, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à récupérer dans cette jeunesse qui arrive de plus en plus pour assister à la cérémonie et jouer de la musique parce que c'est quand même l'espoir.
Moujoukwa. Merci Lisette pour cette belle soirée. Vous étiez très endiablée.
Les esprits habitent en forêt et ils ne peuvent sortir que si ils ont été égayés avec nos chants et venir nous retrouver pour que nous nous réjouissons ensemble. C'était cette danse vraiment sur la pointe des pieds en mimant les gestes des animaux, le gorille, le chimpanzé, la marche de l'éléphant. Donc les femmes avaient vraiment des pas de danse
typiquement le reflet de la démarche des animaux en forêt.
Vous étiez quel animal, vous, hier soir? On dirait un félin.
Elle nous montre un pas devant, un pas derrière. Voilà, tout doucement, on se déhanche. Sa relation avec Kanchengi arrive, comment elle parle avec lui, comment elle exécute ses ordres et ses messages. On dialogue avec Chengi, l'esprit de la forêt, qui est là devant nous. Nous ne voyons pas. Et à qui s'adresse, comme si c'était un ami de longue date.
Cet esprit qui chuchote à l'oreille des bakas les rend plus déterminés que jamais. C'est ainsi qu'ils ont obtenu une forêt communautaire de 5000 hectares, mais à 10 km du village. Pour la première fois, Louisette et Messé Venant, de l'association Okani, se rendent dans ce qui, à première vue, ressemble encore à une forêt intacte, même si le plus grand projet au monde d'exploitation minière devrait voir le jour à quelques centaines de mètres de là. Et c'est à coups de machette que l'on s'enfonce dans cette végétation luxuriante, accompagnée par la mélodie des oiseaux et des singes à nez blanc.
Les plus petits ont sifflé très pour donner l'avertissement aux autres. Attention, il y a la présence humaine et puis tout le monde se cache. On
va essayer de s'avancer un petit peu. Et effectivement, là, ils sont tous regroupés sous cet arbre.
Nayadi, un pas.
Tout ce que j'observe, les oiseaux et tout ce qui bouge autour de moi, m'indique que cette forêt est une bonne forêt pour nous. Ça, c'est de la forêt. C'est de la forêt. Elle a répété plusieurs fois.
Voilà, tout le monde est en train de suivre Lisette qui inspecte les différentes plantes et ressources et qui a l'impression de retrouver sa forêt.
Il y a un nombre incalculable de plantes médicinales.
Sa machette sur l'épaule, les écorces dans l'autre main, et elle scrute chaque arme. Et voilà Lisette qui remercie l'esprit de la forêt et qui essaye de l'égayer.
Et Lisette est en train d'envoyer des messages parce qu'elle pense que la forêt est comme la maison. Et elle invite les membres de la communauté, rentrons, retournons à la maison, la forêt.
Can you feel the vibration waving through me? Another kind of sensation. See, can you see? See how I operate now? How modulate now? Can you feel the vibration?
Merci à Djoubaka pour la programmation musicale, à Sandrine Gallois, Marine Robillard, Patrice Bigombe-Logo, Atang Yamo, Abou Yamate et le CCFD. Cette émission a reçu le soutien au Cameroun de Nomade Aventure et d'Air France, au Tchad, de l'agence Tamera et de l'Ibis La Tchadienne.
Voyage en terre indigène sur France Inter.
Montage Sarah Maquet, assistée de Marie-Jeanne Delpaul et Léa Dupérin. Mixage Mathias Alléon. Un documentaire réalisé par David Rochier.
Une série d'Anne Pastor.
La semaine prochaine, des histoires de femmes. Nous retournerons au Tchad où une association se bat contre le mariage forcé et pour l'émancipation des femmes peules. Et nous irons au Québec après la révélation de milliers de femmes autochtones disparues, assassinées ou victimes d'abus sexuels de la part de la police. C'est un scandale qui ébranle le pays depuis 2015. En attendant, le podcast, la réécoute, les références et les liens pour aller plus loin sont sur franceinter.fr. À vendredi prochain.